avec Suno Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous avons choisi de nous arrêter sur les deux épidémies distinctes de maladies à virus Ebola qui touchent simultanément l'Afrique subsaharienne. En Guinée forestière, deuxième flambée, plus de 5 ans après la grande épidémie qui avait frappé 3 États ouest-africains, Liberia, Sierra Leone et donc la Guinée. À plus de 6000 km de là, le Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, 12e épidémie recensée dans ce pays où les tout premier cas avait été identifié et le virus isolé, c'était il y a 45 ans. Réapparition d'un virus émergent au moment où la planète fait face à une crise sanitaire sans précédent depuis un siècle, alors que les systèmes de santé sont déjà mobilisés pour faire face à cette pandémie de Covid-19. Résurgence qui, au regard du nombre limité de cas, 18 en Guinée, 12 en RDC, atteste de plusieurs faits rassurants. Que des enseignements ont été tirés d'une épidémie à l'autre en matière de diagnostic et d'identification des patients, de prise en charge, de sensibilisation comme de vaccination. Maîtrise des contaminations qui ont poussé les autorités sanitaires guinéennes à s'engager sur le contrôle de la situation sur une période de 6 semaines. Nous verrons au cours de cette émission ce qu'il en est réellement. Cette efficacité dans la riposte qui a même permis à l'OMS, dès le 22 mars, de lancer un compte à rebours pour la fin de l'épidémie en cours en RDC, avec comme échéance le 2 mai. De quelle manière autorités sanitaires et locales ont-elles amélioré la riposte à Ebola? Comment se déroulent les campagnes de vaccination ciblées? On le verra. Que sait-on aujourd'hui des affections latentes? Pourquoi la sensibilisation de la communauté reste un levier essentiel? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Avec nous en studio, professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris à Neuilly, président de la Société française de médecine des voyages. En ligne de Kinshasa, on vous retrouve. Professeur Jean-Jacques Mouyembe, bonjour.
Bonjour madame.
Professeur, vous êtes directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa en RDC, coordonnateur national de la riposte Covid dans ce pays. Également vous, hein, professeur, c'est à vous que l'on doit la co-découverte en 1976 du virus Ebola. On va retrouver en ligne de Conakry le professeur Georges Kizerbo, infectiologue, expert en santé globale, représentant de l'OMS en Guinée. Envisager autrement la prise en charge de son diabète à travers le programme Slow Diabète, 21 jours de suivi complet mais surtout bienveillant. On en parlera en fin d'émission en compagnie de Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques.
Priorité santé sur RFI.
Alors que la planète suit au jour le jour l'évolution de la pandémie de Covid-19, d'autres épidémies continuent de sévir, avec dans le cas de celle qui nous intéresse aujourd'hui, Ebola, une double résurgence quasi simultanée qui se solde par des progrès significatifs dans la lutte contre cette maladie émergente. Hein. Progrès, même s'il faut toujours rester très prudent en la matière. Professeur Christophe Rapp, deux résurgences dans deux zones d'Afrique subsaharienne distantes de plusieurs milliers de kilomètres, mais deux zones qui ont déjà une histoire, un vrai passé avec cette fièvre hémorragique, la Guinée et la RDC.
Alors ces deux pays, effectivement, hein, ont été victimes de la grande épidémie de 2013 à 2016. Et puis au Congo, il y a eu également une grande épidémie en 2018, dont la fin a été prononcée uniquement en 2020. Et donc là, on est sur des pays qui ont acquis une expérience face à cette menace du virus Ebola. Mais on est surtout face à deux épidémies qui n'ont rien à voir, hein, sur le plan structurel, mais qui illustrent une problématique qui commençait à être connue, qui est le problème de la résurgence. Hein. Il semble que dans les deux épidémies, les modalités de transmission soient une modalité de transmission sexuelle par des survivants. Et ça, c'est une problématique assez particulière qu'il va falloir prendre en compte pour les épidémies futures, puisque c'est très difficile à anticiper. Mais pour autant, c'est aussi aussi plus facile à circonscrire, ce qui explique que très rapidement, on arrive là, avec la prise en charge plus la vaccination en ceinture dont on reparlera, à circonscrire très vite le phénomène épidémique.
Ça change la donne et on va le voir aussi notamment pour la recherche. Hein. On vous retrouve à Kinshasa, professeur Jean-Jacques Mouyembe, l'RDC. Hein. Autre pays de la planète, mais aucun autre pays n'a connu autant de flambées. C'est la 12e épidémie, réapparition donc le 7 février dernier dans la province du Nord Kivu. Là encore, c'est limité, hein, 12 cas, 6 décès. Et puis ce compte à rebours, l'espoir de déclarer au début du mois de mai, hein, dans quelques dizaines de jours, la fin de cette 12e épidémie. Qu'est-ce qu'on peut dire, professeur Mouyembe, de la situation sur place ?
Ben, de la situation sur place, en fait, nous, on est un peu habitués à cette épidémie de maladie à virus Ebola. Et comme vous savez, c'est une zoonose. Et jadis, cette infection était plutôt rare. Nous avions considéré cela comme un accident. Un accident que l'homme soit donc infecté par ce virus. Donc, la première épidémie, comme vous le savez, a eu lieu en 1976 à la mission catholique de Yamboukou, en RDC. Et la deuxième épidémie est survenue en 1995, c'était à Kikwit, soit 20 ans après Yamboukou. Mais donc, depuis lors, ces épidémies sont de plus en plus fréquentes en RDC. Souvent avec peu de liens avec la faune sauvage. Donc nous avons eu des épidémies en 2007, en 2008, en 2009, en 2012, en 2014, ainsi de suite. Et la grande épidémie de 2018-2020, c'était au nord, au sud Kivu et en Ituri, avec plus de 1000 survivants. Alors, ceux-ci sont maintenant pointés du doigt depuis la fameuse épidémie de l'Afrique de l'Ouest, les survivants étant des personnes qui peuvent transmettre la maladie à leurs conjoints. Et cela nous crée beaucoup de problèmes parce qu'avant, nous n'avions pas connu ce système-là, ce phénomène. Nous n'avions pas connu dans nos épidémies. Mais depuis donc 2013-2016, depuis donc l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest, ce phénomène devient donc un phénomène qu'il faut surveiller, qu'il faut suivre. Et nous avons mis en place une équipe de recherche pour le suivi, n'est-ce pas, des guéris. Et nous pensons que c'est sur ça qu'on doit maintenant se focaliser pour mieux lutter contre cette épidémie de maladie à virus Ebola.
Oui, professeur Rapin, c'est très important de le dire. Quand on est face à une nouvelle flambée, bien sûr, on recherche à connaître la souche. Et là, on mène tout ce travail d'enquête. On va dire que c'est allé assez vite. Parce que ce qui est important à la fois, c'est de connaître la souche, mais de connaître, bien sûr, toutes les personnes que le cas initial, on dit le cas index, a rencontré. En Guinée, c'était une femme. Elle était infirmière a priori. Il y a eu ses funérailles. Et contrairement à la première épidémie en Guinée où ça a pris des semaines, là, ça s'est passé en quelques jours. C'est important parce que du coup, on peut savoir qui a été concerné, l'identifier et prendre en charge ces personnes.
Oui, alors la détection précoce, l'alerte épidémiologique, elle est fondamentale. Et là, effectivement, le fait de disposer de laboratoires, d'être entraîné, d'avoir en place un tracing des contacts, a permis très rapidement d'isoler le virus et puis ensuite de le séquencer, de le comparer au virus antérieur. Donc ça, c'est vraiment un des acquis des crises antérieures, puisque là, ça permet de riposter très rapidement. Et on sait qu'il y a un lien entre la rapidité de la riposte et le nombre de cas et donc le nombre de décès. Donc là, c'est un exemple que le système fonctionne.
Et là, dans le cas de la Guinée, on n'avait jamais vu un virus latent dormir aussi longtemps avant de se réveiller. Hein. C'est la première fois.
Voilà, l'autre particularité de cette épidémie, c'est que la dernière résurgence connue par voie sexuelle, c'était un délai de 17 mois après la guérison chez un survivant. Et là, on est au-delà de 5 ans. Donc, c'est un cas très particulier hein, de ce problématique de réservoir où le virus dort caché dans une partie du corps. Et là, c'est dans les testicules. Et donc, le sperme peut être contagieux très à distance. Ça pose une question de recherche sur comment stériliser le virus dans toutes les parties du corps. Ça nous rappelle un peu la réflexion qu'on avait eue sur le VIH-Sida antérieurement.
Alors, des sanctuaires immunologiques, on peut dire aussi qu'il y a d'autres lieux où se cache le virus. Il y avait eu des grandes études, justement, sur les survivants, sur les guéris, hein, on les appelle aussi comme ça, pour savoir comment se manifestait, justement, la maladie, les séquelles pour certains de la maladie. Certains avaient des atteintes aux yeux, certains avaient des céphalées. Ça veut dire qu'on peut être déclaré guéri, mais avoir encore une petite partie de la maladie en soi, c'est ça ?
Alors, la maladie virus Ebola, c'est une maladie aiguë avec une très forte létalité, hein, 40 à 50%, quelles que soient les épidémies, avec une deuxième phase qui a vraiment été bien investiguée lors de l'épidémie de 2013-2016, avec ce qu'on appelle le syndrome post-Ebola, hein, qui est en fait, on parle maintenant de Covid long, et bien c'est un Ebola long où les gens ont des séquelles neurologiques, oculaires, des surdités, des troubles cognitifs, etc. Et donc il y a eu des cohortes, hein, de suivi très bien faites, et on sait maintenant que beaucoup de survivants auront des séquelles, et au-delà des séquelles, on sait que certains peuvent être porteurs du virus dans des réservoirs, hein, et avec une baisse d'immunité, une infection concomitante, il peut y avoir une augmentation, une réplication du virus et de la charge virale qui peut redevenir finalement contagieuse pour un conjoint. C'est un peu ce qui se passe actuellement en Guinée et en RDC.
Alors, on vous retrouve à Kinshasa, professeur Jean-Jacques Mouyembe. On imagine bien que ces virus émergents, on les surveille tout particulièrement dans le contexte tropical. Sur place, il y a bien sûr une autre épidémie, hein, celle de Covid-19, dont vous êtes, je le disais tout à l'heure, le coordonnateur de la riposte au niveau national. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, depuis qu'il y a eu la déclaration de cette 12e flambée, l'annonce officielle par les autorités sanitaires, que d'une certaine manière, la pandémie a un peu compliqué la donne pour la riposte à Ebola?
Bon, écoutez, c'est-à-dire, nous, on a gardé à peu près les mêmes équipes, hein, celles qui ont travaillé sur les épidémies au nord Kivu, et, n'est-ce pas, à l'Équateur. Donc, nous parvenons à combiner la lutte contre donc ces trois épidémies à la fois. Mais ce n'est pas facile. Mais la question que nous nous posons maintenant, lorsqu'on a une épidémie d'Ebola, c'est de savoir est-ce que c'est une résurgence ou bien une réinfection.
Et dans ce cas précis, vous avez travaillé sur la souche, vous avez eu des informations sur ce point ?
Oui. Nous sommes vraiment très bien équipés. Et là, je félicite les avancées faites, n'est-ce pas, par les pays africains, notamment donc le Sénégal, la Guinée et la RDC. Nous sommes donc capables de séquencer le virus et de dire, voilà, c'est un virus d'origine sauvage, donc de l'animal à l'homme, ou bien un virus qui est, n'est-ce pas, une résurgence. C'est une rechute d'un ancien cas, soit une transmission sexuelle entre un guéri et un de conjoint. Donc, ceci est très important. Cette surveillance génomique nous permet vraiment de faire des avancées terribles en ce qui concerne la surveillance, n'est-ce pas, des fièvres hémorragiques, pour retracer les chaînes de transmission, etc.
Vous dites que les efforts sont faits, le travail est fait. Est-ce que vous avez les conclusions ? Est-ce que pour le cas de Boutembo qui nous intéresse aujourd'hui, pour cette 12e flambée, on sait si c'est une personne guérie qui a vu ce virus se réveiller ou s'il y a eu transmission ? Est-ce qu'on a la conclusion des investigations ?
Bon, la conclusion des investigations, c'est dire que voilà, ce n'est pas une nouvelle... Un nouvel événement. Ce n'est pas un transfert de la faune sauvage vers l'homme. C'est plutôt une source persistante et donc une infection qui est restée endormie et qui s'est réveillée et qui est transmise, n'est-ce pas, pour les cas de Boutembo, qui est transmise donc d'un survivant à sa femme ou à son épouse.
Une transmission. Bon, est-ce que ça veut dire que ça permet d'avoir une meilleure surveillance et on va dire un repérage plus précoce de ces cas ?
Plus précoce et beaucoup plus précis. Et puis, bon, nous avons vu aussi que à partir de cette résurgence, vous pouvez avoir une épidémie de grande ampleur. Le cas, par exemple, de 2018, je pense, là, nous avons même eu 91 chaînes de transmission. Vous voyez, c'est quand même beaucoup. Mais celle de 2021, là, nous avons eu une transmission beaucoup plus petite. C'est seulement 12 cas. Et c'est parce que la population était préparée déjà et les équipes de riposte étaient en place. Et également, les laboratoires ont beaucoup aidé, sans exclure l'impact de la vaccination et des innovations technologiques en matière de traitement.
Vous diriez qu'il n'y a, voilà, a pas eu vraiment de bouleversement dans la stratégie, mais c'est vraiment une expérience consolidée avec ce renfort vaccinal.
Exactement.
Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, hein, tirer les enseignements, rester en même temps en veille, comme ça a été le cas pour le coup. On connaît aussi mieux ces modes de transmission. Il y a aussi tout le travail justement d'analyse, de séquençage. Encore faut-il avoir le matériel pour le faire. Professeur Jean-Jacques Mouyembe, je disais Covid-19 plus Ebola. Vous avez le sentiment que vous avez les moyens qu'il faut pour faire face?
Bon, écoutez, les moyens dans nos pays, les moyens, il faut les acquérir. Il faut les acquérir grâce, n'est-ce pas, surtout à la coopération, grâce aux partenaires. Et en RDC, nous avons des partenaires importants tels que l'OMS, UNICEF, MSF et la Banque mondiale et le Fonds mondial. Et donc, pour la protection de nos personnel, pour les traitements, pour la surveillance, tout ça donc, et le pays lui-même aussi s'investit de plus en plus dans la santé. Je pense que nous sommes sur une bonne voie pour dire que dans l'avenir, le pays africain seront vraiment responsables de leur propre santé. Et pourront donc se défendre contre tous ces pathogènes qui vont apparaître dans le futur.
Deux éléments importants qui sont apparus dans ce que vous venez de nous dire. D'abord, vous nous parlez des personnes guéries. On sait bien tous les problèmes de stigmatisation qu'il y a pu y avoir par le passé autour de cette maladie Ebola, et on le comprend parce que elle est vraiment redoutable. Très forte mortalité, encore près de 50% malgré tous les progrès. Et qu'est-ce qu'on va faire justement pour ne pas un petit peu jeter une mauvaise image sur les personnes guéries, pour ne pas dire qu'ils pourraient représenter un danger? Il faut bien comprendre que ce risque est très limité. Il faut bien comprendre qu'il ne faut absolument pas exclure des gens de la communauté. Comment est-ce qu'on va travailler sur ce point justement, professeur Mouyembe?
Moi, je pense que les guéris sont les partenaires très importants dans la lutte contre Ebola. Nous devons utiliser ces guéris-là et en cas d'épidémie, ils pourront même être au front.
Les inclure à la réponse.
Oui. Et je pense que ce sont des personnes qu'il faut protéger. Et nous avons mis en place une étude qui va s'occuper du suivi, n'est-ce pas, de ces guéris. Et comme vous savez, le pays est très grand, donc nous avons une équipe au nord Kivu, à l'Équateur et sans doute nous allons mettre également au Kasaï et au Bandundu pour suivre tous ces cas de convalescents, n'est-ce pas, d'Ebola.
Travailler au niveau régional, il y a un point essentiel qu'il faut qu'on traite avant de se quitter, professeur Mouyembe, c'est bien sûr la vaccination. Comment ça s'est passé dans cette zone? Est-ce qu'il y a eu des réticences? On sait que pour d'autres maladies, effectivement, il y a un petit peu des fausses croyances, il y a des résistances, il y a de la défiance. Comment ça s'est passé pour Ebola quand les équipes vaccinales sont arrivées en disant voilà, il faut vacciner la famille, il faut vacciner toutes les personnes qui ont approché ceux qui, ou celles qui ont développé la maladie? Ça a été quoi la réaction des populations?
Bon, écoutez, au début, la population était tout à fait réticente et même agressive. Vous savez, l'épidémie d'Ebola au nord Kivu, au sud Kivu et Ituri, c'était dans une région, n'est-ce pas, de conflits, de conflits armés, et l'insécurité était le facteur qui freinait, n'est-ce pas, les activités. Et il fallait donc absolument avoir la population de son côté, essayer, n'est-ce pas, de la convaincre. Et moi, personnellement, j'étais le premier à me faire vacciner. J'ai reçu donc le vaccin et je suis encore vivant.
Vous êtes là, vous nous parlez, a priori, ça rassure.
oui, ça rassure. Et donc, après, je pense que c'était plutôt un engouement pour que les familles se viennent se faire vacciner. Et pour le moment, nous n'avons plus de problème pour la vaccination. Et d'ailleurs, nous avons parfois des problèmes. On commence à ouvrir un flacon et puis on n'a pas assez de candidats. Et on dit, bon, celui qui veut, il reçoit la vaccination. Et on voit donc les gens qui viennent d'eux-mêmes pour se faire vacciner. Donc, le vaccin n'est plus un problème. La vaccination contre Ebola n'est plus un problème dans une région où on a connu des épidémies d'Ebola.
Mais il y a toujours ce travail essentiel de la sensibilisation.
De la sensibilisation, oui. Voilà.
Et vous y travaillez comment? Parce que vous dites les instances de veille, les spécialistes restent sur place. Est-ce qu'il y a aussi au long cours une action de la communauté pour dire il faut rester vigilant? Si quelqu'un a tel symptôme, a une grosse fièvre, a des saignements, des mouvements, il sue énormément ou il se sent vraiment très fébrile, très fatigué, il ne faut pas hésiter à aller au centre de santé. Ça continue à passer le message. Et puis aussi celui essentiel des gestes barrières.
Oui, bon, mais le fait que notre cas, la dernière épidémie là, on a eu, ça a été détecté le 7. Donc, le malade a présenté les symptômes le 25 janvier. Et alors, il est passé par différentes structures de santé. Et voilà, donc, le 7 février, l'échantillon est arrivé au laboratoire et puis on a donc confirmé. Donc, ça a été quand même relativement rapide.
Il y a moins de 15 jours, c'est rapide, effectivement.
Oui. Ce qui veut dire que le personnel soignant est sensibilisé et peut reconnaître donc les symptômes, bien que ce n'était pas en période épidémique, peut reconnaître donc les symptômes et alerter, n'est-ce pas, les autorités sanitaire.
Restez vigilants, c'est essentiel. On vous remercie infiniment pour votre disponibilité. Professeur Mouyembe, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. En RDC, professeur Christophe Rapp, on a brièvement évoqué justement l'accueil de la vaccination, l'hésitation vaccinale, mais il faut revenir à la technique de vaccination propre à Ebola. On sait que là, les populations de la planète, à des rythmes assez différents, sont en train de se faire vacciner contre la Covid. C'est complètement différent. On essaye d'avoir une immunité. Là, on parle de vaccination ceinture. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, donc là, on part sur une vaccination telle qu'on faisait pour la variole dans le temps, qui est vraiment une vaccination en cercle concentrique, en anneau, pour circonscrire l'épidémie. Et donc, c'est très particulier. Ça s'est avéré très efficace sur l'épidémie au Congo en 2018. Donc, on va vacciner les professionnels de santé en première ligne qui sont les plus exposés, les contacts du cas index, la famille, l'entourage, et les contacts des contacts. Et on va progresser comme ça en cercle concentrique. Il faut les vacciner très rapidement, bien entendu. C'est une seule dose. C'est un vaccin qui a des similitudes avec les vaccins dont on parlait aujourd'hui, parce qu'il se conserve à moins 80 degrés, qu'il a une logistique assez complexe et il y a un stock stratégique à Genève et l'OMS exporte à chaque fois du vaccin pour arriver à faire ce cercle concentrique. Donc la problématique, elle est comme toujours la notion de logistique complexe et puis de stock. Il n'y a pour l'instant pas énormément de vaccins dans le stock mondial. Heureusement, là, on a vacciné d'un côté 1600 personnes et de l'autre 5000. Mais si on avait une épidémie d'une grande ampleur, on aurait encore la problématique de l'approvisionnement. Il faut certainement augmenter le stock.
Bien évidemment, en fonction de la maladie, la contamination, le mode de transmission n'est pas le même. C'est pour ça que le mode de vaccination diffère aussi. Quand on a quelque chose dans l'air qui se transmet beaucoup plus facilement comme la Covid, évidemment, on ne peut pas avoir le même mode de vaccination.
Alors disons oui, disons que là c'est une maladie contact, alors que le coronavirus est une maladie à transmission aérienne. Les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes également. Bien entendu, on aimerait avoir aussi un vaccin Ebola préventif qui serait dans le calendrier vaccinal. Mais pour une maladie qui est somme toute assez rare, là on est à chaque fois, même si en 2014-2016 il y a eu 28 000 cas et 11 000 décès, c'est dramatique. Mais vous voyez, on n'est pas du tout sur les chiffres d'une épidémie à transmission aérienne. On est sur quelque chose de géographiquement localisé parce que c'est une maladie étroitement liée à l'interaction homme-environnement et puis maladie contact. Donc heureusement, les dégâts ne sont pas du tout les mêmes. C'est traumatisant pour les populations et ça touche des populations souvent précarisées. Mais on n'est pas du tout dans la même diffusion qu'une épidémie à transmission aérienne.
Dans la même dimension. Professeur Christophe Rapp, restez avec nous. On rejoint Conakry dans quelques minutes après ce titre de Saul Banks, Dis-je-vous.
I fell in love with the dancing queen. Lady be the monada and she smiled at me. Oh, Amali, 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 Mona. Siga femme, in Amalubede. I thought I'd do you please pay me one night song. Mad at me, then we dance all night long. Can I see London Lake? You know you don't eat that lava. Tell my daddy. So, Jiwa, Donning Benita, you. Jiwa, that's a leaf in there. Can I see London Lake? Girl, don't you know that lapa? Jiwa, oh baby, Jiwa. So, Jiwa, darling, benita yo. Jiwa, that's a leaf in there. Can I see land the lake? Girl, don't you know that lapa? Jiwa, oh baby, Jiwa.
Priorité santé sur RFI, on continue de parler de la résurgence des épidémies d'Ebola en Afrique subsaharienne. Riposte en RDC dans le Nord, Kivu que l'on vient d'évoquer. En Guinée forestière aussi, toujours en compagnie du professeur Christophe Rapp, infectiologue. On souligne depuis le début de cette émission les enseignements des précédentes épidémies, les progrès en matière de prise en charge. Ce qui a changé du côté des thérapeutiques par rapport aux flambées tant en Guinée qu'en RDC. Professeur Rapp, qu'est-ce qui a changé? On entendait lors des premières grandes épidémies, finalement, que les patients étaient isolés. Un point, c'est tout. Aujourd'hui, ils sont isolés, ils sont aussi traités.
Alors, les fameux centres de traitement Ebola ont progressé. Il y a des unités individuelles d'isolement mobiles qui ont été mises en place. Il y a des protocoles de prise en charge du traitement de support, c'est-à-dire la réhydratation. C'est des malades qui vont avoir des diarrhées de 5-6 litres. Il faut donc les perfuser et les réhydrater. On a bien progressé là-dessus. On a une recherche qui a été importante, mais qui s'est un peu arrêtée sur les antiviraux, avec notamment des anticorps monoclonaux et des antiviraux, qui ont montré un certain bénéfice, mais il faut être quand même juste et dire qu'actuellement, on n'a toujours pas un traitement étiologique sur le virus Ebola formidable. Il y a un petit bénéfice, mais l'essentiel du traitement, c'est la précocité de la prise en charge et la qualité des soins supports et qui sont liés à la meilleure organisation des centres thérapeutiques Ebola dans ces différents pays. Mais la létalité reste très importante. Elle est, il faut le rappeler, par rapport au coronavirus dont on parle actuellement, on est sur du 40-50% des sujets qui vont décéder. Donc c'est une maladie qui est très traumatisante localement pour les familles et les soignants également.
Alors tout de suite, on va partir pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Et on vous retrouve, professeur Georges Kizerbo, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes infectiologue, expert en santé globale, représentant de l'OMS en Guinée. Question très simple, hein, pour commencer. Où en est cette épidémie d'Ebola en termes de cas et d'identification des contacts?
Bon, actuellement, on a un total de 23 cas qui ont été rapportés depuis le début de l'épidémie, dont 16 cas confirmés. Et on a au total un certain nombre de contacts qui ont été aussi retracés. Ce qui est important, c'est que la riposte s'est organisée très rapidement, en particulier avec le déploiement des vaccins. 5425 personnes qui sont des contacts et aussi des personnels de première ligne ont déjà été vaccinés. Et aussi, les traitements nouveaux, comme les anticorps monoclonaux, ont été mis en place. Les capacités de laboratoire ont été renforcées, y compris pour le séquençage. Et l'engagement communautaire se poursuit pour, en particulier, avoir toute l'implication de la communauté, qui est essentielle avec celle des autorités pour interrompre ces chaînes de transmission.
Professeur...
La préparation dans les pays voisins se poursuit aussi.
Alors, professeur Kizerbou, quand on vous entend, on comprend qu'il y a le côté vraiment, il faut agir sur tous les fronts en même temps. Hein. Il ne faut pas laisser un terrain libre, justement, pour laisser le virus se développer. Du côté de la vaccination, est-ce que vous nous disiez 5425 personnes vaccinées? Est-ce que vous savez si aujourd'hui, toutes les personnes cibles, finalement, ont été atteintes?
Oui, ça, c'est un point très important. Il est important pour chaque cas de pouvoir retracer tous les contacts et aussi pour plus de sécurité, on s'arrête pas aux contacts, on prend aussi les contacts de deuxième ligne, c'est-à-dire les contacts des contacts pour pouvoir effectuer un ratissage assez large, étant donné qu'on ne maîtrise pas toute la mobilité et toutes les chaînes, les ramifications possibles. Donc, c'est une vaccination dite en ceinture qui a tendance à s'élargir en fonction du risque. Et je pense que ça permet de renforcer les possibilités d'interrompre ces chaînes de transmission qui peuvent être multiples.
Et l'acheminement des doses vaccinales, ça s'est passé dans de bonnes conditions?
Oui, au début, ça a été un peu difficile à cause de problèmes logistiques, mais dans les 8 jours suivant la déclaration, et nous avions déjà les premières doses et d'autres allocations sont arrivées. Et actuellement, sur le terrain, on a pu renforcer la chaîne de froid avec des équipements qui permettent de garder ces vaccins à moins 80 degrés, mais aussi à les sortir avec des équipements mobiles et à les déployer sur le terrain.
Tout à l'heure, avec le professeur Mouyembe, on parlait des réticences de la population. Comment ça s'est passé en Guinée forestière?
Il y a des poches de réticence qui ont eu lieu au début, mais qui ont pu être vaincus, en tout cas adressés, avec l'aide surtout de nos équipes de communication sur les risques, mais aussi appuyés par des socio-anthropologues. Mm-hmm. La clé, c'est vraiment l'écoute des communications, des populations, des communautés, et se baser sur leur perception, sur leur savoir traditionnel, sur leur représentation de cette maladie, mais aussi utiliser les canaux traditionnels, les influenceurs locaux, les leaders communautaires et aussi les autorités locales, les collectivités. Actuellement, on a encore des poches de réticence que nous sommes en train, avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'UNICEF, les ONG qui sont sur le terrain, en train d'adresser pour permettre une bonne qualité la réponse.
Là encore, c'est un enseignement de la première épidémie. Hein, c'est fini, les interventions façon cow-boy.
Absolument.
Dans le cas de la Guinée, se pose bien sûr, hein, comme la dernière fois, la question de la sécurité transfrontalière avec le Libéria, la Sierra Leone, les mouvements à contrôler, parce que c'est dans une zone où il y a une très grosse production forestière, pas mal de camions, donc il faut surveiller tout ça. Qu'est-ce qui a été engagé de ce côté pour limiter ces risques?
Dès le début de l'épidémie en Guinée, un plan de préparation et de riposte à l'échelle sous-régionale a été mis en place, avec en particulier des plans dans chacun des pays frontaliers de la Guinée. La Guinée a appelé une réunion des ministres de la Santé dès le 2 mars, donc 2 semaines après le début, et des engagements ont été pris pour activer la vigilance, la veille sanitaire le long des frontières et faire des simulations, des formations du personnel et même envisager, si nécessaire, peut-être des campagnes de vaccination selon le risque qui sera réévalué en permanence dans les autres pays. Donc, les plans de préparation transfrontalière sont également à l'œuvre actuellement et orientés par les autorités et les partenaires du système des Nations Unies et les ONG qui travaillent sur le terrain.
Professeur Kizerbo, le gouvernement de Guinée a déclaré à la mi-février qu'il se donnait 6 semaines pour éradiquer l'épidémie. Est-ce que cet engagement, énoncé notamment par le ministre guinéen de la Santé, sera tenu? Est-ce que vous avez justement des... Comme tout à l'heure, en RDC, on a dit il faut 2 fois la période de contamination, 21 plus 21 jours, 42 jours pour dire voilà, c'est derrière nous, c'est terminé. Est-ce que vous avez une visibilité à ce niveau-là?
Oui, comme vous le savez, cet engagement fort a permis certainement de circonscrire, il faut le reconnaître, le foyer dans sa zone initiale. Il faut se réjouir que les autres régions de Guinée n'ont pour le moment signalé aucun cas, mais il faut renforcer les alertes et la préparation dans toutes les régions. Et aussi, jusqu'à présent, aucun pays voisin, malgré l'investigation des alertes, n'a pu déclarer un cas. Donc, le fait d'avoir pu circonscrire dans son foyer initial l'éclosion est déjà un avantage. Mais vous le savez, le compte à rebours a été remis à zéro il y a quelques jours avec l'éclosion d'un nouveau cas après plus de 3 semaines sans cas confirmé. Donc, ça veut dire que ça nous ramène effectivement à plusieurs semaines de riposte supplémentaire. Et donc, malgré le fait que la date butoir peut-être certainement sera déplacée, ce qui est important, c'est la qualité dans tous les piliers de la riposte qui va permettre éventuellement d'arrêter cette nouvelle flambée.
Continue une surveillance très, très aiguë. Les enseignements de cette flambée 2021, professeur Christophe Rapp, peut-être revenir avec vous quelques instants sur ce que disait tout à l'heure le professeur Kizerbo, l'anthropologie, les sciences humaines, les sciences sociales, ne pas aller contre les usages. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe pour le Covid, on passe d'un continent à l'autre, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'anthropologues de notre société européenne pour comprendre que ben oui, on a du mal à pas voir la famille, on a du mal à pas se toucher, peut-être dans certaines régions du monde plus que d'autres. Comprendre aussi, prendre nous les enseignements d'Ebola, prendre nous les enseignements de cette médecine tropicale.
Alors tout à fait, hein, c'est une belle question. Et effectivement, dans la gestion des épidémies, la mobilisation des communautés, qu'elles soient en Afrique ou en France, elle est comparable et elle est indispensable pour avoir de l'acceptabilité, de l'adhésion. Et d'ailleurs, il faut noter qu'en France, le conseil scientifique s'est doté d'anthropologues dans un deuxième temps. C'était pas la composition initiale. Dans un deuxième temps, on a mis plus d'experts des sciences sociales. Hein. On peut pas effectivement gérer, riposter une épidémie en pensant que le travail est uniquement technique et scientifique.
Par exemple, que les gens ne fêteront plus Noël, ne fêteront plus Pâques, ça n'existe pas.
Il est fondamental, le volet social et humain. Et c'est vrai qu'on a parfois du mal à collaborer tous ensemble dans un but commun.
Alors, professeur Kizerbo, en termes de riposte, on ne peut pas tout comparer, mais par rapport à l'épidémie de 2015, on sait par exemple qu'il y a le mode de transmission initial qui est différent. Mais pour vous, qu'est-ce qui a vraiment été fait cette fois, qui a changé la donne et qui a permis d'éviter le pire?
Je crois que cette fois-ci, les procédures standards du programme des urgences de l'OMS ont été suivis dans le cadre de l'application du règlement sanitaire international. La déclaration de l'épidémie est survenue dans les 24 heures après la confirmation du premier cas. L'évaluation rapide du risque est intervenue dans les 72 heures et la gradation de l'événement de santé publique est arrivée également dans la première semaine. Et 8 jours après, comme je disais, les vaccins, les médicaments ont commencé à arriver. Et le déploiement des équipes sur le terrain était aussi fait dans les premiers jours. Voilà ce qui fondamentalement a changé et qui doit permettre de saluer le leadership de la Guinée, mais aussi l'accueil des communautés qui ont bien voulu accepter la vaccination et les autres interventions de prévention des infections.
On va dire qu'un élément absolument essentiel, c'est la transparence aussi des autorités, hein. Ne pas mettre le couvercle sur les premiers cas et puis aussi former tous ceux qui interviennent au niveau local, au niveau communautaire. Je pense que c'est important pour vous aussi d'en parler, professeur Kizerbo. C'est justement que les personnes qui vont dans les villages, qui vont dans les maisons, qui vont rencontrer les familles soient totalement légitimes.
Absolument. On a bâti sur les leçons de la dernière épidémie et le dispositif qui a été mis en place avec des équipes de réponse rapide, des centres de traitement épidémiologique, des agents de santé communautaire et des relais communautaires et des centres opérationnels d'urgence aussi qui existent maintenant dans toutes les régions en Guinée. Et donc, ce mécanisme, ce dispositif a été réactivé assez rapidement et permet de justifier les avancées qu'on a pu avoir en quelques semaines.
En tout cas, la multiplication de ces épidémies plaide pour une véritable politique de santé publique. Il faut financer tout cela. Il faut investir dans la santé au même titre que dans la sécurité, professeur Kizerbo.
Absolument. Je crois que ça, c'est une des leçons essentielles. Et le plan global d'action pour la santé et le bien-être que 13 grands acteurs de santé mondiale ont signé suite à au sommet des Nations Unies sur la COVID et rebâtir mieux après la COVID, à placer la santé au centre des objectifs de développement durable. Il faut que la couverture sanitaire universelle, qui est l'autre face de la sécurité sanitaire, soit financée dans tous les pays et que ces programmes d'agents de santé communautaire, d'infrastructures sanitaires, de ressources humaines en santé soient financés dans tous les pays. C'est un investissement dans le capital humain et dans la sécurité humaine à travers la santé.
Et il y aura un très gros retour sur investissement, ça c'est certain. Merci beaucoup pour votre éclairage, professeur Georges Kizerbo. Je rappelle que vous êtes infectiologue, expert en santé globale, représentant de l'OMS en Guinée, professeur Rapp. On avait vu que les précédentes flambées d'Ebola avaient mis les systèmes de santé locaux à genoux. Là, ça a été circonscrit, ça a été bloqué. Du coup, on s'en tire mieux. Mais en même temps, il y a la Covid qui est arrivée et qui est en train de faire un petit travail de sape, y compris sur des vaccinations essentiel, on le voit en ce moment en RDC avec la rougeole. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a ces épidémies qu'il faut baisser la garde, on va dire, sur les périls traditionnels.
Non, mais en fait, tous les pays confrontés à cette épidémie de coronavirus ont des effets collatéraux sur leur programme de santé, que ce soit la couverture vaccinale classique, on peut parler de la rougeole, on peut parler de la fièvre jaune, de la gestion du paludisme, de la tuberculose. Il y a toujours un déséquilibre quand les moyens sont mis à disposition d'une urgence versus la gestion des maladies chroniques ou la prévention. Et ça rejoint ce que disait mon collègue, il faut monter le niveau et avoir des systèmes de santé intégrés, beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, susceptible de tenir la route, même quand il y a une crise sanitaire de type épidémie qui vient un peu bousculer le système. Il doit y avoir un peu de réserve. Malheureusement, en Afrique, dans les pays ou dans certains pays d'Asie, il n'y a pas de réserve. C'est encore très, très fragile. Et là, on a parlé des pays qui étaient un peu entraînés sur Ebola. La menace Ebola sur le continent africain pourrait poser d'autres problèmes à des pays qui se sentent moins concernés et qui ne se sont pas préparés.
Restez vigilants, on l'a bien compris. Merci beaucoup, professeur Christophe Rapp, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris, président de la Société française de médecine de voyage.
Priorité santé sur RFI.
Un programme sur 21 jours, coup d'envoi, c'était hier, ça va durer jusqu'au 25 avril. Le nom du projet, c'est Slow Diabète, en anglais dans le texte. C'est en ligne, c'est gratuit, on va mettre bien sûr le lien sur la page de l'émission. Et pour nous expliquer de quoi il retourne, on vous retrouve, Jean-François Thébault, bonjour.
Oui, bonjour, Jean-François Thébault.
Oui, vous êtes vice-président de la Fédération française des diabétiques. Slow Diabète, gérer sa maladie chronique sans stress, dans un esprit tranquille. Pourquoi cette initiative et pourquoi justement ce motif du bien-être, de la relaxation associée à une maladie chronique et grave, hein, on peut le dire, comme le diabète?
Alors, je vais me permettre, pour faire la transition avec ce qui a été dit, c'est de souligner que le diabète est une épidémie en voie d'explosion en Afrique, mm-hmm. puisqu'on compte environ progressivement une augmentation pouvant atteindre jusqu'à 45 millions de personnes d'Afrique subsaharienne atteintes du diabète dans les 15 ans. Et ceci essentiellement lié à l'urbanisation et au changement de mode de vie et à l'alimentation. Donc c'est un fléau qu'on connaît en Europe avec des millions de patients diabétiques, 4 millions en France, plusieurs dizaines de millions en Europe, et qui repose essentiellement jusqu'à présent sur des traitements extrêmement médicaux. Mais c'est une maladie chronique et comme toutes les maladies chroniques, comme le nom l'indique maintenant, on vit très longtemps avec sa maladie. Donc il faut un peu l'apprivoiser. Et c'est une espèce d'accompagnement psychologique. Nous, notre objectif à la Fédération française des diabétiques, c'est de rendre les patients les plus autonomes possibles et les plus conscients de la capacité qu'ils ont à agir sur leur corps, de ne pas être dépendants du diabète, de ne pas vivre en permanence avec l'idée du diabète et de la glycémie, mais de réellement vivre. C'est presque cette maladie chronique, c'est presque un compagnon ou une compagne avec lequel on va vivre pendant des années, des dizaines d'années. Et donc, comme dans un couple, il faut se respecter mutuellement, il faut s'accompagner, il faut se comprendre.
Il faut cohabiter.
Il faut cohabiter et il faut tenir compte des désirs et des besoins de l'un et de l'autre.
Et ce programme, il montre aussi que prendre en charge le diabète, il y a les contraintes, d'accord, mais ce n'est pas non plus simplement l'affaire des médecins spécialistes, des endocrinologues. Il peut y avoir vraiment un recours à d'autres soins, d'autres pratiques, d'autres thérapeutiques.
Alors, ce qui est important, et on l'a vu beaucoup au moment du confinement sur le Covid, c'est qu'il y a eu une souffrance psychologique extrêmement importante et très diverse des patients atteints de maladies chroniques qui se retrouvaient tout seuls. Et donc, l'accompagnement, il doit se faire de manière, alors j'aime pas ce mot parce que holistique, mais ça veut dire de manière globale, en prenant en compte toute la personnalité et de l'individu pour qu'il puisse arriver à une forme de maturité, de tranquillité qui lui fait plus vivre cette maladie comme une contrainte permanente, mais qui peut même en tirer profit en essayant de nouvelles voies comme la sophrologie, la méditation, l'accompagnement psychologique, mais aussi des voies plus ludiques, en diététique, la gastronomie, le jardinage même, qui permet de faire de l'activité physique. L'activité physique, mais quand on parle d'activité physique, très souvent, les gens sont déçus parce qu'ils imaginent la course à pied ou le vélo, mais il y a bien d'autres types d'activité physique. Et dans ce programme, on donne par exemple des cours de yoga, des cours de pas du kung-fu, mais de qigong, ou encore des cours de pilates, comme il y aura cette semaine.
Et les usagers, ils ont repéré les propositions les plus alléchantes. Ils vous disent ce qu'ils préfèrent?
Alors, ça va être évalué. On en est à la troisième séquence. On a fait la première au mois de juin dernier. On avait à peu près 2700 participants. La seconde, ça a été fait avant les fêtes de Noël. On a approché les 5000 participants. Et cette fois-ci, là, donc pour le printemps, on en est à 7500 participants.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Slow Diabète, l'adresse est à la Fédération des Diabétiques. www.fédérationdesdiabétiques.org. Et c'est gratuit. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Louise Calédec, Didier Bleu, Laurence Snow, tout ce monde avec vous pour préparer Priorité Santé. Demain, Journée mondiale de la santé, on va parler de la situation de l'hôpital en France après une année de crise.
C'était Priorité Santé avec Sounois Assurance IARD-RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards de voisins, on va vous